Bonjour. C'est dommage qu'on ne connaisse pas l'allemand, on aurait pu s'associer à eux. Avec un peu d'effort, on devrait peut-être y arriver. Alors, merci beaucoup de me réinviter pour à nouveau ouvrir la parole ensemble. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les quelques passages, pas quelques versets, quelques chapitres qui parlent de la vie d'Ézéchias. Mais je vais essayer de le résumer, ça va être un exercice un peu difficile, mais on va essayer de résumer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai remarqué que quand on veut apprendre un chant, par exemple comme celui qu'on vient d'entendre, les premières strophes, ça va. Parce qu'on commence toujours par le début, alors au bout d'un moment, on finit par les savoir, mais la dernière strophe, c'est terrible. Et c'était un peu pareil pour les cours, j'étais à la fac. Du coup, j'avais pris un peu l'habitude d'apprendre par la fin. Enfin, de réciter par la fin. Et je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais pour le Notre Père, j'ai l'impression qu'on fait un peu la même chose. Et j'ai remarqué que j'avais pas tellement l'habitude de prier ce petit verset, enfin ce court verset qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Je ne sais pas si vous priez ça dans votre culte quotidien ou pas. Donne-nous notre pain quotidien. Oui, ça. De toute façon, notre estomac nous le rappelle. Mais est-ce que vraiment c'est important de faire cette prière? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors je vous propose qu'on lise, de vous résumer l'histoire d'Ézéchias, parce que je crois qu'il est un bon exemple pour nous stimuler dans cette prière. Enfin, en tout cas, c'est une illustration qui, moi, m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je prie ce verset. Quand on lit le livre des rois et puis des chroniques, on est vraiment content de tomber sur Ézéchias. Parce que avant lui et juste après lui, c'est vraiment pas terrible. Mais avec Ézéchias, on reprend espoir. On voit qu'à peine âgé de 25 ans et dès la première année de son règne, eh bien, il va non seulement réparer le temple, le purifier, mais il va aussi rétablir le culte et il va placer les Lévites dans la maison de l'Éternel. Je vais vous lire quelques versets. Dans Chronique 29, verset 25, il dit « Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths, des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant, du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par les prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs, les trompettes. » Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes, avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. C'était une très bonne transition qu'on vient de voir, hein, où Ézéchias était attaché à la louange et il voulait que vraiment le peuple d'Israël reprenne cette habitude de louer l'Éternel. Et au verset 28, donc s'il y en a qui veulent suivre, c'est 2 Chroniques 29, hein, au verset 28, toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Et au verset 35, ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. On voit un roi qui a à cœur que Dieu soit loué et adoré. Il a à cœur qu'il y ait un lieu où on puisse le faire se réunir. Et il a à cœur qu'on rétablisse eh bien, les offrandes, le culte. Et il remet donc en place les Lévites. C'est au point qu'ils vont célébrer une Pâque si belle, où les chrétiens. Pas les chrétiens, mais le peuple d'Israël se montrait tellement enthousiaste qu'il est dit, il a fait ce commentaire que il n'y en avait pas eu de semblable depuis Salomon, depuis l'époque de Salomon. Donc on a l'impression qu'on revient à enfin un culte d'adoration à Dieu, un désir de le servir vraiment du fond du cœur. Et non seulement il invite son peuple du royaume de Juda à le faire, mais il va aussi solliciter tous ceux qui n'avaient pas été déportés parmi le royaume d'Israël. Donc il avait une vision de réunification. C'était vraiment un roi qui voulait encourager tout le peuple d'Israël, pas seulement ceux qui étaient de la tribu de Juda. Donc c'est vraiment un roi qui fait chaud au cœur. On se dit, ah voilà un homme qui ressemble à David. D'ailleurs, il est comparé à David. Il est dit qu'il suivait l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Alors, il y a un raccourci, il y en a eu d'autres entre-temps, mais yup, il est identifié à David tellement il avait voilà, un désir de servir son Dieu. On peut dire qu'il ressemblait, il avait un cœur selon Dieu, hein, à l'image de David. Il va un peu plus loin, il va détruire les temples païens, les autels dressés sur les hauts lieux, il abat les statues et il va détruire même ce serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert, qui était là pour stimuler la foi des Israélites. Hein, quand ils étaient mordus par un serpent, ils regardaient ce serpent, ils étaient guéris. C'était une manière d'exprimer leur foi dans le secours de Dieu. Et il va donc vraiment aider le peuple à se détourner des idoles pour se recentrer sur Dieu. L'auteur des chroniques va dire, voilà ce que fit Ézéchias, c'est dans au chapitre au 31 et au verset 20, il dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est, pardon, ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. On y voit. Ça, c'est un vrai roi. C'est un roi presque parfait. Enfin, même il semble parfait. Hein. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu en lisant le texte, mais on se dit, oula, on n'y arrive pas à la cheville à ce Ézéchias-là. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et d'ailleurs, il est vraiment présenté comme un homme de Dieu, plein de foi, parfaitement obéissant. C'est vraiment un roi qui convient bien au peuple de l'Éternel. C'est un peu surprenant parce que le chroniqueur va poursuivre, mais il va faire une parenthèse, il va faire comme un feedback, mais enfin, pardon, je voulais quand même relever une chose. Avant d'en arriver à ce feedback, il nous raconte aussi l'histoire de la victoire sur les Assyriens, quand Jérusalem va être encerclée sur l'ordre de Sanchérib, qui était donc le roi d'Assyrie. Et à ce moment-là, on voit vraiment que Ézéchiel réagit par la foi. Il veut vraiment s'appuyer sur Dieu. Et il le fait avec l'aide du prophète Ésaïe. Et finalement, ils vont être délivrés. Et là aussi, on se dit, bah, il fallait avoir du cran quand même. Parce que quand vous avez une armée à vos portes, s'appuyer sur Dieu simplement pour dire, bien, délivre-nous, c'est vraiment un homme de foi. Et j'en reviens à la parenthèse que fait le chroniqueur. Parce qu'il revient un peu en arrière, parce que c'est un événement qui s'est passé avant l'attaque de Jérusalem. Et il va nous faire remarquer qu'il s'est passé quelque chose chez Ézéchias. On peut le lire. Hein. Donc dans 2 Chroniques 32-24. 2 Chroniques 32-24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui et sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Le chroniqueur poursuit ensuite et il relève la richesse, la gloire et le fait que Ézéchias a eu du succès dans tout ce qu'il avait entrepris, y compris des constructions assez ingénieuses. Mais il revient un peu plus loin au verset 31 sur l'épisode de sa maladie et sur ce qui s'est déroulé à la suite de cette maladie. Il dit au verset 31: Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui, pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays et qui avait accompagné sa guérison, on va y revenir, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Et là, c'est, enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti ça en lisant, enfin, ou comment vous le ressentez maintenant en lisant, mais pourquoi donc? Ah, merci, c'est très gentil. Ah, c'est peut-être dangereux. Comment ça se fait que Ézéchias ayant fait tellement de bien, on est surpris de voir qu'il soit jugé si sévèrement? Et puis, pourquoi est-ce que Dieu l'a abandonné? Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de l'abandonner pour savoir ce qu'il y avait dans son cœur? Parce que c'est ce qu'il nous dit. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qu'il y avait dans son cœur. David a écrit au psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » David a écrit ceci avant qu'Ézéchias ne naisse. Si c'était vrai pour David, est-ce que ça n'est pas vrai pour Ézéchias? Pourquoi Dieu avait-il besoin de savoir ce qu'il avait dans le cœur d'Ézéchias? Et pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il l'abandonne pour cela? Est-ce que ça vous intéresse qu'on lise ce qui s'est passé vraiment? Parce que là, le chroniqueur, il raccourcit, hein, c'est un résumé de résumé. Si vous êtes d'accord, on va lire dans Deux Rois. Ça doit être une histoire importante pour Dieu, parce qu'il en parle dans trois chapitres, ici dans les chroniques, dans les rois et dans Ésaïe. Et on va se promener dans ces différents passages. Deux Rois 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. La phytothérapie, c'est déjà à l'époque utilisé, et je crois qu'il y avait autre chose derrière ces figues, n'est-ce pas? Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés? Comprenez 10 marches d'escalier ou 10 repères sur un cadran solaire, peut-être il y a différentes explications à ce passage. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, effectivement, c'est ce qui se passe tous les jours. Mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. C'est-à-dire que c'est comme si, en apparence, le soleil changeait sa course dans l'autre sens. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Donc un miracle extraordinaire qui confirme la promesse de Dieu faite à Ézéchias de le guérir et de rajouter 15 ans à sa vie, et en plus de le délivrer du roi d'Assyrie. Et on a vu qu'il l'a fait, que Dieu l'a fait. Donc c'est peut-être une façon du chroniqueur de montrer que Dieu tient ses promesses, puisqu'il fait ce feedback après nous avoir raconté la délivrance de Jérusalem. Mais ce n'est pas là notre souci principal. Vous voyez que Ézéchias est malade à la mort, c'est-à-dire qu'il est agonisant, n'est-ce pas? Et le prophète vient vers lui et lui dit, bon, bien, prépare-toi, tu vas mourir. C'est-à-dire, prépare tes affaires, donne tes ordres, passe chez le notaire ou fais-le venir, mais en tout cas, tu ne vas plus vivre. Il faut que tu en aies conscience. Et à ce moment-là, on le voit supplier Dieu. Il fait appel à la compassion de Dieu en disant « Mais Seigneur, j'ai tout fait pour te plaire. » Il n'est pas en train de dire « Écoute, je mérite que tu fasses quelque chose pour moi », mais il dit « Quand même, souviens-toi de ce que j'ai fait. » Par exemple, Néhémie le dira dans d'autres circonstances, « Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi à cause des ennemis qui lui veulent du mal. » Donc il ne faut pas avoir de l'orgueil. Enfin, dans cette prière, il n'est pas en train vraiment de dire à Dieu « Tu dois me donner encore quelques années de vie ou quelques jours. » Non, mais simplement il supplie Dieu et il pleure tellement que Dieu l'entend et répond spontanément. Ésaïe est en train de sortir, il est obligé de revenir sur ses pas et dire « Bon, contre-ordre. Tu vas vivre 15 ans et tu seras délivré de tes ennemis. » Alors c'est curieux parce que quand il nous est dit que Dieu a abandonné Ézéchias, on pourrait se dire « Tiens, c'est là, quand il était malade. » Ben non, puisque Ézéchias prie, Dieu lui répond, il lui fait une promesse merveilleuse. Et à ce moment-là, Ézéchias, c'est tellement difficile pour lui de dire « Attends, mais est-ce que Dieu peut changer d'un instant à l'autre ?» Pourtant, il venait de prier. Vous savez, c'est un peu comme quand l'Église prie, et puis il y a Pierre qui frappe à la porte, personne n'y croit. Et Ézéchias, eh bien, dit « Comment je vais savoir que c'est vrai? Quel signe Dieu va me donner ?» Et Dieu lui donne un signe merveilleux qui prouve qu'il domine sur les astres, qu'il domine sur l'univers, qu'il est le roi incomparable, comme ça a été chanté aussi dans cet Alléluia. Et à ce moment-là, eh bien, Ézéchias va pouvoir se réjouir. Hein. Et 3 jours après, effectivement, il pourra aller au temple, s'il sera guéri. Et c'est visiblement un signe qui n'est pas passé inaperçu. Alors, je ne sais pas si ça a été vu jusqu'en Babylonie, mais en tout cas, c'est arrivé aux oreilles du roi de Babylone. Et on va lire la suite. Mais on va la lire dans Ésaïe. Ésaïe au verset 39, au chapitre 39. Babylone, à ce moment-là, c'était pas un empire. Hein. C'était un pays qui résistait au roi d'Assyrie, mais il n'était pas très connu. Enfin, il se dit connu, mais c'était un pays lointain Ézéchias, il ne savait pas trop vraiment quoi penser de ce pays. Mais en tout cas, il y a des ambassadeurs qui viennent depuis si loin, au verset 1 donc du chapitre 39 d'Ésaïe. En ce même temps, Mérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoyait une lettre et un présent. Vous imaginez un présent venant d'un roi pour un roi, ce n'était pas juste une petite écharpe ou... Mais il y avait une lettre aussi qui accompagnait. On n'a pas le contenu de la lettre, mais voilà pourquoi il envoie cette ambassade. Parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Le chroniqueur nous dit aussi qu'il voulait savoir, il voulait en savoir un peu plus sur le signe qui avait accompagné la promesse de sa guérison. Parce que les Babyloniens, ils aimaient bien regarder la lune, le soleil et toutes les étoiles. Ils aimaient aussi se prosterner devant, ça c'était moins bien. Mais ça les intéressait, et quand on voit la réaction d'Ézéchias, au verset 2, « Ézéchias en eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent, l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal, tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. » Je ne sais pas si ça vous rappelle le roi Salomon, la reine de Séba, qui vient de si loin. Je me mets dans la peau d'Ézéchias, je me dis « Waouh !» j'ai pas calculé la différence de distance si les Babyloniens venaient de plus loin ou pas, mais en tout cas ça l'a flatté. La Bible du Semeur traduit comme ça, il se sentit flatté. Dans la seconde 21, cela réjouit tant Ézéchias, n'est-ce pas? Cela réjouit tant Ézéchias que j'ai tout leur montré. Salomon n'avait pas fait ça. Hein. Il n'avait pas montré les trésors à la reine de Séba. Mais la reine de Séba avait constaté la sagesse de Salomon et elle avait pu voir tout ce que Dieu avait fait avec lui. Et finalement, quand il nous est dit que Dieu l'a abandonné, C'était pas au moment de la maladie, mais c'était quand les ambassadeurs sont venus le voir, que Dieu a abandonné Ézéchias pour voir ce qu'il avait vraiment dans le cœur. Et là, on se dit, mais vraiment, il faut qu'on prie. Hein. Il faut vraiment prier, Seigneur, ne m'induis pas en tentation, préserve-moi de la tentation. Parce que le problème d'Ézéchias, c'est pas qu'il manquait de foi, c'était pas qu'il n'était pas zélé pour Dieu, mais c'est qu'il était comme vous et moi, enfin, en tout cas comme moi, je sais pas vous, mais il avait ce problème d'orgueil qui est ressorti à ce moment-là. Et ce qu'on comprend ici, c'est que finalement, bah, ce miracle de l'ombre qui recule, bah, c'est pas lui qui l'a fait, mais bon, il n'est pas pour rien. Il avait prié le Dieu de l'univers. Et il s'est un peu attribué la gloire de ce miracle et presque même de sa guérison finalement. C'était ça le problème d'Ézéchias. Ça n'a pas été sa maladie, ça a été sa guérison et le signe qui a accompagné sa guérison. Il aurait peut-être mieux valu qu'il meure lieu d'avoir 15 ans de plus et de faire ce péché-là. Et le chroniqueur nous dit que, eh bien, l'orgueil l'a amené à pécher contre Dieu, et du coup la colère de Dieu s'est enflammée contre lui, mais non seulement contre lui, mais contre Israël, contre Juda en tout cas, contre Jérusalem. Donc peut-être bien qu'il n'était pas tout seul, Ézéchias, à se glorifier de ce miracle, de cette guérison. Peut-être que le peuple aussi s'est dit, ah, notre roi, il est parfait, il est merveilleux, et nous on le suit, on est comme lui, on est un peuple merveilleux, on mérite que Dieu déplace les astres pour nous. Et ça leur est monté à la tête. En tout cas, Ézéchias, ça lui est monté à la tête. Vraiment, prions que Dieu ne nous abandonne pas. Seigneur, ne m'induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il n'est pas question du diable ici, hein, on n'en entend pas parler, mais on le sait qu'il est là, n'est-ce pas? Vous vous souvenez ce qui s'est passé enfin, d'abord, on va revenir ce qui s'est passé au jardin de Gethsémané, mais Jacques nous dit une chose de très précieuse, hein, il l'affirme, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. En fait, ce n'est pas Dieu qui est en train de tenter Ézéchias. Hein. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché. Et le péché étant consommé et produit la mort. Frères et sœurs, il y a assez d'orgueil en nous pour que le diable n'ait rien à faire. Il y a assez de faiblesse en nous pour que si on se laisse aller, on pêche. On aimerait dire l'inverse, j'ai le Saint-Esprit en moi, sauvé, gagné, je ne vais plus jamais pécher. Parce que j'ai le Saint-Esprit qui est tout-puissant. Oui, c'est vrai. Mais je suis encore dans ce corps de chair et j'ai encore cette faiblesse en moi. Seigneur, vraiment, ne m'induis pas en tentation. C'est vraiment important qu'on fasse cette prière. Vous vous souvenez aux disciples, à Gethsémané, pardon, au jardin des Oliviers, pardon, il leur dit. Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que j'en ai conscience? En fait, quand Jésus nous demande de faire cette prière, il nous demande d'avouer qu'on a cette faiblesse. Il nous demande d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on a besoin qu'il nous aide à ne pas pécher. C'est tout simplement ça. Et aux disciples, ils leur avaient demandé de le faire et ils n'ont pas pu. En fait, si Dieu devait nous éprouver, ce serait pour nous faire prendre conscience de notre état et de notre besoin, ce qu'il a fait pour Ézéchias. Parce que si quelqu'un avait besoin de savoir ce qu'il y avait dans son cœur, c'était Ézéchias, c'était pas Dieu. Dieu, il le savait. On l'a lu avec l'affirmation de David. Mais simplement, Dieu nous invite à lui demander de limiter ses épreuves et ses tentations, et il s'engage de son côté à y mettre des limites. Je vous propose dans 1 Corinthiens 10, 11, il nous est dit, ces choses leur sont arrivées, ce n'est pas ce qu'on est en train de lire, ce n'est pas Ézéchias, mais il fait référence à un autre passage de l'Ancien Testament qui est arrivé à Israël, mais vous êtes d'accord avec moi, on peut l'attribuer à Ézéchias aussi, ce qui a été écrit pour Ézéchias aussi a été écrit pour nous servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction Je lis les Corinthiens, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la force, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Pourquoi j'ai lu le dernier verset ? Parce que la pire des idoles, je crois que c'est mon propre cœur. La plus grande des idoles, c'est moi-même. Et finalement, Dieu s'engage à limiter les tentations et s'engage à donner, à préparer le moyen d'en sortir. Il me semble que le meilleur moyen d'en sortir, c'est la repentance. Si vous regardez Ézéchias, il nous est dit qu'il s'est repenti. Lui et le peuple d'Israël, ils se sont repentis. Et Dieu les a pardonnés. Et qu'est-ce que Dieu leur accorde ? Eh bien, il dit, vous méritez à cause de votre orgueil. Avec tout ce que j'ai fait pour vous, tout ce que vous avez déjà vu avant, des générations avant, vous n'auriez pas dû vous laisser aller à l'orgueil. Mais parce que vous vous repentez, ces malheurs que je vous ai annoncés n'arriveront pas de votre vivant. Et Ézéchias va dire, bon, tu es juste, j'accepte ta sentence et je te remercie parce que ça ne va pas arriver de mon vivant. Donc tu me fais quand même cette grâce. Au début, je me dis, il est égoïste, il ne pense pas à ceux qui suivent. Pour lui, tant mieux, ça ne lui arrive pas. Mais au final, il a quand même cette humilité d'accepter le jugement de Dieu sur sa vie, alors que pourtant il n'était pas si mauvais que ça, Ézéchias. Il a péché que cette fois-là, on a l'impression. Mais non, en fait, il avait cet orgueil, et il avait besoin d'en prendre conscience. Dieu permet qu'il soit éprouvé pour qu'il en prenne conscience, mais il lui donne aussi la force de surmonter cette épreuve, puisqu'il va lui donner la force de se repentir, et Dieu va lui accorder la repentance. Il va lui accorder le pardon et il va lui épargner de souffrir l'attaque des Babyloniens qui viendront ensuite voler tout ce qu'il a montré de ses trésors. Alors que le Seigneur nous aide, voilà, à faire cette prière, Seigneur, ne nous soumets pas, ne nous induis pas en tentation. Ça peut être traduit aussi, hein, ne nous expose pas à la tentation ou dans la semeur, garde-nous de céder à la tentation. Et délivre-nous du diable, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, qui sait utiliser notre orgueil, nos fibres, enfin tout ce qui en nous n'est pas très clean, pour nous amener à pécher. Mais le moyen d'en sortir, ça va être soit la force que Dieu nous donne sur le moment, parce qu'on le prie, il nous secoue, mais il y aura au pire, mais au mieux aussi quelque part, cette possibilité de se repentir et d'être pardonné. Et nous pouvons le faire avec confiance en passant par Jésus, le seul homme vraiment parfait qui n'a jamais succombé à aucune tentation, puisqu'on a cette promesse en Hébreux 4,14 qui nous dit « Ainsi, puisque nous avons un si grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. » C'est surprenant. Il a été tenté comme nous en toute chose, c'était sans commettre de péché. Et là, on a vu que lui, il n'avait pas cet orgueil que nous on a, n'est-ce pas ? Il était tellement différent de nous, homme, parfaitement, mais sans péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et finalement, David, je l'avais cité c'est lui qui nous dit hein, que Dieu connaît il sait ce que je vais dire avant même que ça vienne sur ma langue. À la fin du psaume 139, il conclut en disant sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Alors, est-ce qu'il est en train de contredire ce qu'on vient de dire ? Non. Mais regarde. Avant d'avoir à m'éprouver par des épreuves, des difficultés ou des tentations, éprouve-moi quand je lis ta parole, quand je suis dans la prière devant toi, quand je suis en train de chanter un cantique, quand on est en train de parler entre frères et sœurs dans l'église. Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-le, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est ma conclusion, que le Seigneur nous aide à réciter le Notre Père à l'envers. Ha ha ha. du moins qu'on n'oublie pas la fin, qu'on puisse le prier, parce qu'on a vraiment besoin que Dieu nous préserve de ces tentations, du diable, de ces pièges. Mais on a aussi besoin qu'il nous sonde. Hein. Il faut qu'il le fasse, mais pas par des maladies, pas par des trop grandes bénédictions, pas par des trop grands miracles qui pourraient nous amener à nous enorgueillir.